fond de Branche Tech et France, mais des activités terrassement de Vinci Construction. Je vais intervenir en trois temps. Un premier temps, où je vais essayer de poser ce qui peut sembler être un paradoxe. Un deuxième temps, où je vais raconter l'histoire que j'ai vécue ces deux dernières années, une opération de restructuration difficile. Et je dirai pourquoi, je dirai ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Et puis après, je vais donner mon point de vue très personnel, probablement un peu moins autorisé que celui de mon voisin, puisque je suis finalement qu'un patricien du management, de l'entité, hein, dans une entité qui regroupe un peu environ 1500 salariés, mais qui sont alimentés par mes activités de secrétaire général de Grand Alliance, aussi bien que celles de participants à la vie publique, tout simplement. Le paradoxe que je voudrais lever, déjà, c'est le suivant. C'est un sondage que j'ai lu récemment dans un grand quotidien, et qui dit que il y a 87% des cadres qui sont heureux. Alors qu'en soi, c'est un score qui est absolument magique, et quand bien même on bâtit quelques probabilités qui peuvent faire que ce résultat est faux, on s'aperçoit quand même qu'une grande majorité des cadres sont heureux. Et la phrase d'après, c'est que il y a 45% des cadres qui jugent que leurs collaborateurs sont peu ou pas motivés. Comme la plupart des collaborateurs sont également des cadres, ça veut dire qu'il y a à peu près une petite moitié de cadres qui sont heureux et pas motivés. Ce qui est quand même un paradoxe relativement intéressant. Le deuxième point à relever, c'est que la faiblesse de la motivation va rapidement en croissant, puisqu'en janvier de cette année, il n'était que 39%. Au moins, il passe de 39 à 45%. Je crois que ça alimente un certain nombre de réflexions déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ces deux dernières années? J'ai fait un acte de management classique, c'est-à-dire que j'ai été amené, je n'ai pas forcément choisi, mais enfin c'est comme ça, à restructurer une activité dans un contexte extrêmement difficile. Le contexte général est le suivant, c'est globalement une crise dans l'activité que j'ai à diriger. Une crise majeure, puisqu'en deux ans, le volume d'activité concerné par nos travaux en France a baissé de 40%. Je crois que tout le monde ici imagine ce que représente une activité qui baisse de 40% en un peu plus de deux ans. Avec une métamorphose complète de ce marché qui, comme l'a dit Michel tout à l'heure, est en train de buter, c'est-à-dire que on passe de marchés traditionnels à des marchés qui ont un contenu beaucoup plus important en ingénierie, qui nécessite une réorganisation assez profonde de nos entreprises. Et dans ce contexte, j'ai donc dû opérer la fusion de deux entreprises qui étaient filiales du même groupe, qui faisaient la même activité. Donc vous imaginez qu'elles étaient copains comme cochons, avec des cultures extrêmement différentes. Et pour corser le tout, dans deux ans, par rapport à aujourd'hui, je pense que nous allons très probablement doubler notre activité. Donc je ne sais pas si tout le monde imagine ce que ça peut être que de gérer une fusion entre deux entreprises profondément concurrentes, profondément ennemies, je vais prendre ce terme ennemi qui est un peu fort mais qui n'est pas très loin de la vérité, avant une reprise très vigoureuse de l'activité et dans un contexte de bouleversement complet du type de travaux que nous réalisons. Et on l'a fait, et je pense pouvoir dire aujourd'hui que même si ce que je vais dire n'a pas vocation à être exemplaire, parce que je ne pense pas que ce soit reproductible, c'est une réussite et qui met en avant un certain nombre de choses qui sont intéressantes pour le débat d'aujourd'hui. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est que on a été extrêmement transparent. On a dit la vérité. Ce que je vous ai dit de façon très sommaire, on a dit la vérité. Et on l'a dit à tous les niveaux d'entreprise. On l'a dit au comité de direction, on l'a dit lors des réunions des cadres, mais on l'a également dit en CE, devant les délégués ouvriers, délégués TAM, délégués cadres. Et globalement, cette analyse de notre situation, tout le monde l'a partagée parce que sur ce mot de transparence. Mais c'est une transparence qui nécessite, vous imaginez bien, un certain courage, puisqu'on explique à des gens que bah, ça va être très dur. Et que c'est jamais facile de dire à quelqu'un, les yeux dans les yeux, que ça va être très dur, parce que tout le monde imagine ce qu'il y a derrière le mot très dur. Ensuite, on a fait notre travail, c'est-à-dire qu'on a défini les axes stratégiques, on a défini une stratégie qu'il fallait mettre en œuvre pour passer là-dedans. Et cette stratégie, encore une fois, on l'a partagée à tous les niveaux d'entreprise. Et on a fait adhérer le personnel de l'entreprise à cette stratégie. Avant de demander à l'ensemble des cadres de réfléchir aux éléments qu'il fallait mettre en place pour qu'il y ait cette stratégie. C'est-à-dire que quelque part, on a reconnu aux cadres le droit de s'exprimer sur la base des éléments que nous avions déterminés en comité de direction, le droit de s'exprimer sur ce qu'il fallait faire pour gagner les différents paris que nous pensions nécessaires de gagner pour tenir cette stratégie. Dans le même temps, je ne dis pas qu'on n'a pas perdu d'emploi, parce que globalement, tous les emplois qui étaient précaires, je parle de l'intérim, des contrats de durée déterminée, et en ce qui concerne nos entreprises de construction, des contrats de durée de chantier, bien évidemment, ont été supprimés, puisque globalement, on ne pouvait pas tenir le même niveau de production. Mais on a engagé, on a continué à embaucher des jeunes dans des niveaux de compétences dont on savait qu'on allait avoir besoin, et à former ces jeunes de la même façon qu'on continue à former l'ensemble de des couches de l'entreprise. Donc effort de formation, effort d'embauche dans des compétences que je qualifierais de rares. Et on a pratiqué une politique salariale qui n'a pas été une politique d'extrême rigueur, même si vous imaginez bien qu'on n'a pas été généreux, mais une politique de rééquilibrage des conditions salariales des deux anciennes entreprises qui étaient différentes. Avec pour l'entreprise qui était considérée comme étant la plus généreuse, non pas un statu quo en matière de rémunération, mais la prise en compte des conditions d'inflation. Donc, quelque part, une politique tout à fait classique, qui n'est pas une politique de crise. En tout cas, pas le zéro promotion. Donc, le résultat de cette politique, finalement, il est multiple. Le premier, c'est que en mettant l'accent sur la nécessité de faire évoluer notre entreprise, de prendre en compte les évolutions nécessaires qu'on allait avoir, je pense que nos collaborateurs n'ont pas vraiment senti l'état de la crise. C'est-à-dire que globalement, on avait à se battre pour mettre l'entreprise en situation de survivre, de bien survivre et d'affronter les défis qui étaient les nôtres. On les a fait participer à ce travail, et globalement, je pense que ils l'ont plutôt bien vécu. Le deuxième, c'est qu'on a créé une culture commune. Hein. Ma grande frayeur, ma grande crainte, quand on a questionné nos cadres sur qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette stratégie, c'était que je me retrouve avec finalement deux tactiques différentes provenant du personnel des deux entreprises. J'avais tort d'avoir peur, puisqu'en fait, il y a eu une seule tactique, et que les gens finalement se sont mis d'accord autour de la table pour que le personnel ici des deux entreprises finalement soit en phase sur ce qu'il fallait faire pour gagner. Et globalement, je pense qu'en quelques mois, on a créé une culture commune à nos deux entreprises. Le troisième élément, c'est qu'on a trouvé des vraies solutions aux problèmes qui nous étaient posés. Parce que quand on pose des questions à des gens qui savent de quoi on parle, en général, on est un peu plus intelligent. Et le quatrième effet, c'est que ça a créé une motivation réelle dans l'ensemble de nos cadres. Qui aujourd'hui ne s'est pas éteinte, avec des résultats probants, c'est-à-dire que l'absentéisme n'a pas augmenté dans aucune des couches d'entreprise, que notre trésorerie, nonobstant la crise, continue à augmenter, et que l'Internet commande est aujourd'hui un niveau record. Donc, quelque part, un succès, et quand je le regarde un peu avec le regard du passé, enfin, quand on regarde le passé, c'est toujours un peu plus facile, je crois que finalement, on n'a rien fait de très original. On n'a surtout rien fait de managérial. On n'a cédé aucune bonne, on a simplement fait un travail d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on avait un problème, on l'a posé, et puis on a cherché à le résoudre avec les gens qui pouvaient participer à cette résolution. On n'a rien fait d'autre que d'être transparent. On a essayé de donner du sens à l'action collective de nos collaborateurs. Et on leur a donné de l'importance en les écoutant et puis en respectant ce qu'ils nous disaient, puisqu'aujourd'hui, ce qu'ils nous ont dit est un plan que nous mettons en œuvre. Et je crois que finalement, si je devais juger de ce qui fait qu'aujourd'hui nos cadres sont motivés, c'est la réunion de tous ces éléments, ce mélange de transparence, de courage, de respect et d'écoute. C'est bien plus différent de ça, et finalement ça rejoint assez bien ce que a dit mon professeur. Après, je voudrais livrer quelques réflexions sur ce que j'entends à droite et à gauche, des réflexions très personnelles, sur ce que je pense de la démotivation éventuelle des cadres, même si je pense qu'ils sont du moins relativement heureux. Et un premier sujet, qui est un sujet qui me semble assez important, c'est le sujet de l'ascension sociale, du déclassement et de l'équité. Aujourd'hui, on voit que la fourchette des rémunérations s'accroît fortement, avec des cadres, des hauts dirigeants qui partent avec des retraites chapeaux qui dépassent les 2 millions d'euros, alors que dans le même temps, un certain nombre de cadres ont du mal à avoir des promotions qui dépassent le pourcent. C'est clair que cette inégalité est sévèrement ressentie par l'encadrement. Elle l'est d'autant plus que les règles de jugement de leur action sont souvent ressenties comme étant opaques et manquant de transparence. Sans vouloir parler de déclassement, je pense que la difficulté à opérer une ascension sociale qui est extrêmement créatrice de motivation, puisque globalement, en montant dans les couches sociales, on gagne en qualité de vie, quelque part, on fait du mal également à cette motivation. Le deuxième élément que je voudrais mettre sur la table, c'est l'échec. On vit dans un pays où, de mon point de vue, on ne pardonne pas l'échec. Surtout, on attribue l'échec à l'individu plus qu'aux circonstances. Il y a d'autres pays où, en cas d'échec, on sait pardonner à l'individu et considérer que finalement l'échec va probablement le faire grandir. À titre personnel, j'ai tendance à considérer que ce sont les échecs qui ont le plus participé à faire de moi ce que je suis. Enfin, c'est plus mes échecs que mes réussites en tout cas. On réfléchit rarement sur ses réussites, alors que les échecs amènent beaucoup de réflexion. Je trouve que c'est très dommage que notre pays ait une telle crainte de l'échec, parce que quelque part, ça génère une faible appétence pour la culture de la prise de risque, qui, à mon avis, est préjudiciable à notre efficacité, et là aussi à notre motivation, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que la motivation, si ce n'est l'appétence à prendre un certain nombre de risques. Après, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est le manque de courage des dirigeants. Les dirigeants, d'une façon générale, pas simplement les dirigeants de nos entreprises à qui il ne faut pas jeter la première pierre, on s'en fout. Je pense que chacun essaye de faire son travail du mieux possible, mais néanmoins, il y a un manque de courage de l'avant. Et on voit certaines situations dans lesquelles, alors que de façon inéluctable, on sait qu'on va dans le mur, ben on évite de le dire. Parce que c'est pas le moment, parce que c'est difficile de dire qu'on va dans le mur, parce que c'est difficile de proposer des politiques alternatives. Et je pense que cette ligne de conduite qu'on retrouve chez certains de nos hommes politiques, on la retrouve également dans les dirigeants d'entreprise, mais également dans le management à niveau intermédiaire et à tous les niveaux de cadre. J'ai cité deux, trois exemples. L'entretien individuel. Qui n'est pas forcément l'entretien d'évaluation, mais un entretien de compétences, un entretien de management pour juger les besoins de nos collaborateurs. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. On va pas vraiment l'entreprise. Là, je vais créer une formation à l'entretien annuel qui a pour but de donner à l'ensemble de nos collaborateurs, cadres et agents de maîtrise la compréhension managériale de l'entretien individuel, de comprendre les ressorts. Et on a un mal fou à donner la qualité nécessaire à ces entretiens parce que quelque part, on trouve une vraie timidité, une vraie difficulté à affronter l'autre lors d'un entretien qui n'est pourtant pas un combat, lors d'un entretien qui est simplement un échange entre deux personnes, l'un ayant une responsabilité hiérarchique sur l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est assez typique de mon point de vue, d'un manque de ou d'une difficulté à assumer une responsabilité. Et je crois qu'il ne faut pas jeter la pierre là aussi à nos collaborateurs. Dernier sujet, c'est toujours un sondage. Il y a 40% des cadres qui estiment ne pas être consultés pour des décisions qui pourtant les concernent directement. C'est un sujet très grave qui, à l'évidence, ne peut pas générer de la motivation là aussi. Et je vais terminer par les jeunes, parce que très souvent on dit que les jeunes ne sont plus motivés, que les jeunes ne savent plus ce que c'est que le travail. Moi, je voudrais dire que de mon point de vue, il n'en est rien. Je trouve que la jeunesse, elle est formidable, qu'elle est extrêmement motivée, mais qu'elle a complètement changé de culture par rapport à ma génération, par rapport au travail. Pourquoi elle a changé de culture? On est un peu dans une génération dont les parents ont vécu des plans sociaux, un certain nombre de grandes difficultés économiques, et qui ont vu comment les entreprises se comportaient vis-à-vis de leurs parents, de leurs proches, de leurs oncles. Et globalement, je trouve que la jeunesse aujourd'hui, elle opère vis-à-vis du travail par contrat, avec une capacité de zapper ce qui ne va plus, qui est terrible. C'est-à-dire que ce n'est pas un défaut de motivation, parce que je vois des jeunes travailler avec une énergie dont peu sont capables, et beaucoup de jeunes là-dessus se battent vraiment très fort, mais dès que quelque chose ne va plus, dès que. Ils sont capables de zapper beaucoup plus vite que ne l'étaient les gens de ma génération qui, quelque part, étaient relativement sensibles au discours de l'entreprise qui, quelque part, allait assurer l'avenir de ses salariés. Voilà ce que je voulais vous dire de mes petites expériences professionnelles.